Alors bonjour à ceux que j'ai pas encore salués ce matin. Qu'est-ce que c'était beau ce chant-là, hein? M'apprendre à t'adorer comme on t'adore au ciel. Vous imaginez au ciel comment on adore Dieu? C'est toute l'âme, tout l'être qui célèbre Dieu. Ici, là, des fois, il y a des résistances, on va pas bien, on n'a pas le cœur, et on sera libéré, on va adorer Dieu. Ça va être quelque chose, hein. Ça va être une vraie bénédiction. Merci Seigneur pour le salut en Jésus-Christ. Alors j'aimerais juste m'incliner dans la prière courtement. Seigneur, merci. Merci pour ces cantiques. Seigneur, aide-nous à t'adorer ici-bas, de cette manière-là déjà. Seigneur, à déposer à tes pieds tous nos fardeaux, à déposer à tes pieds tout ce qui vient freiner cet élan du cœur. Seigneur, merci parce que non seulement tu pardonnes les péchés, Seigneur, mais tu soulages aussi, tu nous permets de nous décharger de tous nos soucis. Seigneur, et ainsi avoir le cœur léger pour te rendre un culte qui t'est agréable. Et merci Seigneur, nous sommes vraiment pleins de reconnaissance. Et Père, nous prions que tu nous bénisses maintenant, Seigneur. Ta parole, elle est la vérité, Seigneur, elle nous fait du bien, Seigneur, parce que c'est toi qui nous parles, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Seigneur, que tu veuilles la bénir dans toute sa fraîcheur, sa consistance, hein, mais aussi sa nourriture, Seigneur. Père, bénis-la, Seigneur, et fais-nous du bien, Seigneur, nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble l'évangile de Jean, le tout début de l'évangile de Jean. Donc c'est l'évangile qui a été écrit le plus tardivement, hein, puisque Jean était tout jeune quand il était sur le sein de Jésus, et puis ben, forcément il a vécu longtemps, en tout cas pour l'époque c'était très longtemps, hein. Et donc il a écrit cet évangile peut-être dans les années 85-90 du 1er siècle, ce qui est très tardif. C'est aussi l'évangile dont on possède un fragment de copie le plus proche de l'original, 125 après Jésus-Christ. Donc il a écrit en 85-90 et on a un morceau d'une copie qui date de 125. Alors pour vous, vous dites, oh, mais c'est qu'une copie. Mais si vous prenez tous les écrits antiques et tous les vieux manuscrits, les écarts entre l'original et la copie, parce que figurez-vous qu'on n'a plus aucun originaux, hein, l'écart entre la copie et l'original, c'est souvent des siècles. Là, c'est 25, 30, 35, 40 ans maximum. C'est une perle, hein, pour tous ceux qui étudient les textes, disent mais c'est magnifique et ça vient authentifier l'évangile de Jean comme aucun autre écrit. Alors selon la tradition, il a été admis que Jean devait connaître les évangiles synoptiques, forcément, parce qu'il a écrit très tardivement. Donc il connaissait Matthieu, Marc et Luc, hein, les trois autres évangiles. Et inspiré par Dieu, dans son évangile, Jean va être conduit à mettre l'accent sur la divinité de Jésus-Christ, hein, et sur le salut. Comment, eh bien, parvenir au salut en Jésus-Christ? Quel est ce moyen de recevoir le salut? Eh bien, c'est en croyant, tout simplement. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, vous trouvez ce mot « croire » plus que dans les autres, deux fois plus que dans les autres évangiles. On le trouve une centaine de fois. Il faut croire, croire, croire. D'ailleurs, cet évangile a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce qu'il dit dans ses mots. Jean, bien qu'il connaissait les autres évangiles, va pas pour autant prendre les évangiles synoptiques pour faire une synthèse, mais il va plutôt faire appel à sa mémoire et à ce qu'il a vu aussi de ses propres yeux, ses souvenirs. Et il va venir compléter les autres évangiles. Parce qu'il y a des scènes dans l'évangile de Jean qui sont inédites. Hein. Les noces de Cana, la Samaritaine, voilà, on découvre. Hein. C'est magnifique. Il va aussi permettre de mieux comprendre les autres évangiles. Par exemple, dans les trois premiers évangiles, on va voir Jésus qui va, juste après avoir donné à la foule ses 5000 pains, enfin les pains et les poissons, 5000 personnes, il va traverser le lac de Galilée et Jean va préciser, c'était parce qu'il voulait l'introniser. Donc, hop, il est parti et il a traversé le lac. Donc ça vient compléter. Et l'évangile de Jean est unique. D'ailleurs, quand vous prenez les premiers versets, vous commencez à lire, vous dites, oh là, c'est différent. C'est pas pareil que les trois autres évangiles. Alors on va lire ensemble. D'abord les versets 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Quand vous prenez la Genèse, le livre de la Genèse, c'est Moïse qui pose la création et il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et l'apôtre Jean marche dans ses pas avec la même autorité divine. Il dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Et là, il faut tout de suite lever l'ambiguïté avant de continuer à expliquer, parce que le lecteur peut se poser la question, mais la parole, qu'est-ce que la parole ? La parole était Dieu. Alors, eh bien, tout de suite, il répond, et j'aimerais qu'on lise le verset 14 tout de suite, hein, où il dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Voilà, ça explique. La parole a été faite chair. Elle s'est incarnée. Elle a pris une chair comme la nôtre. Hein, et on comprend, eh bien, c'est Jésus. Il est en train de nous dire, mais la parole, c'est Jésus. C'est lui qui est la parole. Et donc, on peut reprendre Jean 1:1 et dire, au commencement était Jésus. Et Jésus était Dieu. Avec Dieu, pardon. Et Jésus était Dieu. Jésus était au commencement avec Dieu. Donc Jean est en train de nous parler de l'existence de Jésus avant que le monde soit, avant qu'il existe. Hein, et il n'y avait rien, absolument rien, uniquement Dieu. Et Jean est direct. Il dit clairement, Jésus était là avec Dieu et il était Dieu. Alors on sait que les témoins de Jéhovah ont trafiqué, hein, ont joué avec la parole, ont changé le texte, hein, ont commencé à différencier, ah oui mais il y a le grand Dieu et puis il y a le petit Dieu avec un petit D, hein, alors que voilà, il n'y a pas la différence en grec entre majuscule, minuscule, mais voilà, on a diminué la personne de Jésus en étant un petit Dieu créé, hein, et donc pas réellement le grand Dieu des Écritures, et pourtant, eh bien non, Jésus est Dieu. Tout l'évangile de Jean crie haut et fort, Jésus est Dieu. Il n'a ni commencement de vie, il n'a ni fin d'existence, bien sûr. Il est de toute éternité. Et quand il n'y avait rien, eh bien lui, il était là depuis toujours. Depuis toujours. Récemment, un scientifique a posé la question à un autre scientifique. C'était un débat hein, sur créationnisme, évolutionnisme. Il a dit... Dites-moi, d'où vient Dieu ? D'où vient Dieu ? Et puis, il a rajouté, comment une force spirituelle pourrait avoir un impact sur un monde matériel pour le créer ? Comment c'est possible ? Alors, la réponse fut celle-ci. D'abord, le fait même que vous posiez cette question montre que vous ne connaissez pas du tout Dieu. Vous ne connaissez pas réellement Dieu. Parce que si nous pouvions dire d'où vient Dieu, alors ça voudrait dire... que Dieu est affecté par le temps, l'espace et la matière. Or, s'il était affecté par le temps, l'espace et la matière, ben, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas Dieu. Or, les trois, le temps, l'espace, la matière, sont liés ensemble. Et donc, ce scientifique disait que ça, c'est un continuum. J'ai appris un mot, un continuum. Cela veut dire que ça doit venir à l'existence en même temps. C'est obligatoire. Parce que s'il y a de la matière et pas d'espace, mais où vous la mettez ? Et si vous avez de la matière et de l'espace, mais sans le temps, mais quand vous la mettez ? Et on ne peut pas avoir le temps, l'espace et la matière d'une manière indépendante. Ils doivent être créés en même temps, d'un seul coup. Et donc il explique, et nous avons là des trinités d'une trinité. Le temps est une trinité, le passé, le présent, le futur. L'espace, la longueur, la largeur, la hauteur et la matière solide, liquide, gazeuse. Comment cela est-il venu à l'existence ? Alors il dit, mais la Bible répond, en quelques mots, vous prenez la Genèse. Au commencement, c'est le temps, Dieu créa les cieux, c'est l'espace, et il créa la terre, c'est la matière. Mais le Dieu qui a créé cela doit être en dehors de cela. S'il était limité par le temps, eh bien, il ne serait pas Dieu. Quand vous prenez un ordinateur, vous regardez un ordinateur, il n'y a pas une personne, celui qui l'a créé n'est pas à l'intérieur en train de changer les chiffres sur l'écran. Non. Eh bien, le Dieu qui a créé l'univers est donc en dehors de l'univers, forcément. Il est au-dessus, il est au-delà, et il n'est pas affecté par lui. Et puis il ajoute, et dire qu'une force spirituelle ne peut être affectée, ne peut affecter la matière, alors il faut m'expliquer aussi les émotions, l'amour, la haine, l'envie, la jalousie. Et il dit, parce que si notre cerveau n'est juste que des réactions chimiques se produisant au hasard et depuis des millions d'années, comment pouvez-vous faire aujourd'hui confiance à votre propre raisonnement ? Ça a clôturé. Alors, eh bien, c'est inutile de demander, mais d'où vient Dieu ? D'où vient Jésus-Christ ? En fait, le Père et le Fils étaient là avant que tout existe, avant que le monde soit. Et c'est par eux que sont venues toutes choses. C'est ce que Jean nous explique au verset 3. Il dit, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. » Et donc Jean nous dit que Jésus-Christ est le Créateur. Toutes choses ont été faites par lui, la parole incarnée. Et au cas où il subsisterait un doute, il dit « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Rien, absolument rien. Certains scientifiques s'obstinent à tenter de démontrer que tout est venu spontanément, que l'univers s'est développé spontanément, sans aide extérieure depuis l'origine, comme ça. Mais la parole de Dieu nous dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, sans Jésus-Christ. Sans lui, pas d'univers. Sans lui, il n'y a rien. Pas de système solaire, pas de terre. Ainsi, il n'y a rien, ni temps, ni espace, ni matière. Il n'y avait rien, pardon. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ceci à partir de rien. Donc, ex nihilo, comme on l'explique. Verset 4, il dit, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » En Jésus, dans la parole, était la vie. La vie vient même de Jésus-Christ. Cette semaine, j'ai ma fille qui a reçu un devoir. On lui demandait de poser une hypothèse. Et la question était, qu'est-ce qui a permis à la vie de se développer sur Terre ? Qu'est-ce qui a permis à la vie de se développer sur Terre ? Alors, elle a répondu, la vie s'est développée sur la Terre grâce à l'oxygène, à l'eau, et puis à des climats favorables, forcément. Et oui, sans ces éléments, ben, il n'y a pas la vie, c'est pas possible. Mais ce qu'elle ne pouvait pas répondre, sinon elle aurait eu zéro, c'est que une eau stérile, une terre sans vie, absolument stérile, eh bien la vie n'apparaît pas comme ça. Hein. Il faut bien que Dieu donne la vie, en fait. C'est lui qui donne la vie. Et s'il n'y a pas cette étincelle de vie provenant de la parole de Jésus-Christ, alors il n'y a pas la vie. Et dans la parole, en Jésus-Christ, était la vie. Et la vie fut la lumière des hommes. C'est ce qui a donné naissance, existence. Verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand vous prenez la lumière, c'est l'opposé des ténèbres. Et Jean nous parle abondamment des ténèbres. Vous savez, dans le Nouveau Testament, je crois qu'il y a 17 fois le mot ténèbres. 14 fois, c'est dans l'évangile de Jean. C'est lui qui le développe le plus. Et le principe naturel de la lumière, elle chasse les ténèbres. Voilà. Vous êtes dans le noir absolu, vous allumez une lumière. Voilà, les ténèbres sont chassées. Et quand Jésus-Christ est quelque part, eh bien, il chasse les ténèbres. Obligatoirement. Et les ténèbres, derrière les ténèbres, eh bien, il y a l'erreur, il y a le mensonge. Les ténèbres, c'est aussi l'immoralité, c'est le péché. Les ténèbres concentrent tout ce qui est l'opposé de la lumière. La lumière, la vérité, la pureté, la sainteté. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Bien sûr, ce monde enténébré n'a pas reçu la vérité de Jésus-Christ et la lumière de Jésus-Christ. parce que leurs œuvres étaient mauvaises, nous dit la parole. Or, verset 6, on continue, regardez verset 6 et 7. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et dans sa venue sur terre, eh bien Jésus brillait de pureté, de sainteté, brillait de vérité. Dieu est suffisant en lui-même. Il avait besoin de personne. Il n'a besoin de personne. Hein. Mais il a choisi de travailler avec des hommes, avec nous, d'œuvrer avec nous. Et un des premiers témoins de sa venue, eh bien, c'est Jean-Baptiste. Hein. Dieu l'a choisi, il est dit ici, il l'a envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Et dans quel but ? Afin que tous croient, puissent croire par lui. Et parfois on se dit, mais à quoi je sers moi ? À quoi je sers ici sur cette terre ? Qui suis-je ? Mais c'est pour nous tous chrétiens, que Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins ici tout autour, un peu plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes mes témoins. Jésus nous l'a dit à nous. Certains ne témoignent pas beaucoup. Certains ne témoignent pas du tout. Jamais. Jamais. Peut-être se disent, mais mon témoignage n'a pas de valeur. Hein, qu'est-ce que je vais dire ? Ça ne compte pas, ça n'a rien d'exceptionnel, sans intérêt. Mais la vérité, c'est quoi ? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Ça, c'est ce que Dieu dit. S'il n'y a personne qui prêche, ils ne peuvent pas en entendre parler. Si on reste dans notre bocal, ils ne peuvent pas en entendre parler. C'est impossible. Et Dieu n'a pas choisi des professionnels de l'art oratoire. Dieu n'a pas choisi des personnes qui savent exposer magnifiquement la vérité. Non, il a choisi des bras cassés. Regardez les 12 disciples au départ. C'est des bras cassés. C'est des bras cassés. Un Pierre impétueux qui parle très vite. Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Quelle réputation, hein. Il va y avoir quelque chose là-dessous. Ou des personnes, regardez parmi les 12, tellement discrètes, peut-être timides, tellement en retrait. On ne sait pas vraiment qui elles sont, hein, ce qu'elles ont fait. Voilà. Et Dieu s'est servi de toutes ces personnes. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Il nous dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Et Dieu nous a sauvés et il veut se servir de nous pour être des témoins. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ, de simples témoins. Peut-être qu'on n'est pas grand-chose humainement, mais Dieu veut se servir de nous pour amener les autres à croire. Et Jésus nous a laissé une parole merveilleuse. Il a dit, s'ils ont gardé ma parole, c'est quoi la suite ? Ils garderont aussi la vôtre. Mais quel encouragement ! S'ils ont gardé ma parole, ils la garderont aussi. Croyez, ils vont garder votre parole. Ça va faire son effet dans leur vie et dans leur cœur. Et c'est en s'appuyant aussi sur cette parole, hein, sur ce texte, ben qu'il faut témoigner et croire qu'ils vont garder aussi notre parole. Il n'y a pas d'autre témoin que les enfants de Dieu, que les chrétiens. Si on se tait avec nos voisins, si on se tait avec nos proches, si on se tait avec nos collègues de travail, si on se tait avec les connaissances que l'on a à l'université ou ailleurs, alors, ben, voilà, comment en entendront-ils parler ? C'est nous les témoins. On existe pour rendre témoignage à la lumière, à la véritable lumière. Verset 9. Il dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jésus-Christ éclaire tout homme. Mais comment le fait-il depuis qu'il est remonté au ciel ? Mais par les témoins. Et c'est là notre responsabilité d'éclairer les hommes. Et en étant des témoins, eh bien, on offre une chance à chacun de répondre à l'appel de Dieu, de répondre à l'Évangile. On croit au libre arbitre. Moi, je crois profondément au libre arbitre. Il n'y a pas besoin que ce soit écrit libre arbitre dans la parole de Dieu pour y croire. Je crois que les textes sont assez clairs. Donc, j'y crois. Et Dieu tend la main. Il offre à chacun de pouvoir accepter le salut en Jésus-Christ ou de le refuser. Et d'une manière pratique, eh bien, Dieu éclaire tout homme en plaçant chacun devant la parole de Dieu et devant Jésus-Christ, hein, ce qu'a fait Jésus-Christ. C'est un peu comme un faisceau lumineux d'une salle de spectacle. Vous savez, ces faisceaux qui sont voilà, ronds là, qui éclairent une personne. Eh bien, Dieu éclaire chaque personne de son faisceau, du faisceau de la vérité des Écritures, de la parole de Dieu. Il peut entendre hein, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ t'a aimé. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il est mort pour toi. Il a payé pour toi. Et il peut te sauver si aujourd'hui tu demandes pardon et tu crois. Ça, c'est la vérité. C'est la lumière qui vient du ciel. Et devant cette vérité, eh bien, la personne, elle est libre. La lumière de Jésus-Christ éclaire tout homme et l'homme est libre d'accepter, de recevoir, se laisser imprégner par cette vérité, la saisir par la foi, ou bien la rejeter, la fuir et sortir du faisceau de la parole de Dieu. Je ne veux surtout pas entendre cela. Je ne veux surtout pas de cela. Il y a des personnes qui n'aiment pas la lumière. Comme les insectes, vous savez, vous soulevez une pierre et ça se sauve. Hein. On n'aime pas. Parfois, on lutte même contre la lumière, contre la vérité, contre Jésus-Christ. La semaine dernière, il y a Myriam qui nous témoignait que dans certains pays, il y avait Dieu qui faisait des choses incroyables. Parce qu'il n'y a pas l'Évangile. Et c'est impossible que l'Évangile pénètre. Hein. Je crois que c'est à Visa pour l'image, là. Il y a une exposition qui est faite sur le Yémen, où deux journalistes sont passés pour des Yéménites avec la burqa et tout. Et puis, elles ont pris des photos comme ça sous la burqa, incroyable, mais c'est tellement fermé, et il y a des pays comme ça, très difficiles, et Dieu a fait des choses incroyables, il permet aussi des visions, il fait grâce aux hommes et il sauve, mais si Dieu agit d'une manière extraordinaire ailleurs, parce qu'il n'y a pas moyen, parce que l'évangile n'est pas là, parce qu'il n'y a personne, eh bien ici, il compte sur nous, nous sommes les témoins de ce pays ouvert, libre, où on peut témoigner de Jésus-Christ. Peut-être que vous vous dites à quoi ça sert. De toute façon, ils ne veulent pas de la lumière. Regardez, ils ne veulent pas. Puis certains même me rejettent. Ils me rejettent en plus. Heureusement que Jésus ne s'est pas dit ça en regardant la terre. Hein? Il est descendu en sachant ce qui allait se passer. Il n'a pas tenu compte du rejet. Verset 10 et 11. Elle était dans le monde, la parole, la lumière, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et c'est incroyable. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Créateur de l'univers, de la terre, de l'être humain, était là, sur la terre, au milieu des hommes, et le monde ne l'a point connu. Le mot « connaître » ici, c'est un mot fort. Hein. Ça parle d'une connaissance intime, hein, profonde. Non, le monde ne l'a pas connu, hein, ne l'a pas reçu, ne l'a pas accepté. Il est resté étranger et distant à cette main qui était tendue. Et Jésus est venu chez les siens, il est dit, et les siens ne l'ont point reçu. Donc les Juifs, hein, pour leur majorité en tout cas. Pourtant, ce n'était pas faute de témoins. Il y avait déjà eu tous les témoins de l'Ancien Testament, tous les prophètes hein, qui avaient été témoins. Et puis il y avait Jean-Baptiste qui était témoin. C'était tout autant de lumière hein, pour éclairer. Mais malgré tous les témoins, eh ben, beaucoup le refusèrent, le rejetèrent. Et on se dit, mais regardez, il y a si peu de gens qui acceptent. Oui, mais combien l'ont accepté? Il faut se dire ça aussi. Hein. Certes, il a été rejeté par une masse impressionnante, mais combien l'ont accepté? Est-ce que ceux-là n'ont pas de valeur? Quand vous faites le décompte, ben, on en connaît 12, au moins. Ensuite, on en connaît 120. Et puis, on va plus loin, 3000. Et puis 5000. Et puis des dizaines de milliers. Et des centaines de milliers. Et puis des centaines de millions aujourd'hui. Et je ne fais pas le compte de tous les croyants de tous les siècles. On est à, je ne sais pas combien, je ne sais pas. Mais beaucoup, beaucoup l'ont accepté. Comment? Par les témoins. Par des témoins, simplement des témoins. Et on cherche ceux qui vont croire. Qui va croire? Voilà, on a soif, on a envie de les rencontrer et d'être pour eux des témoins. Est-ce que vous avez renoncé de parler à Jésus? Peut-être pas forcément consciemment, hein, vous savez, des fois, inconsciemment, bon, c'est plus la peine, ça sert à rien. Est-ce que vous avez renoncé de parler de Jésus? Est-ce que vous avez renoncé à donner votre témoignage? Parce que vous dites, mon témoignage, il n'a pas de valeur. C'est pas grand-chose. Est-ce que vous avez renoncé à offrir un traité, à offrir une Bible, à inviter? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont croire par notre témoignage? Mais on peut en être certain. On peut être certain. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous serez mes témoins, et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. C'est Dieu qui le dit. Donc, ben, si on témoigne, ils vont garder notre parole. Au milieu de tout cela, il y en a qui vont garder notre parole. Pourquoi encore? Eh bien, parce que vous êtes le témoignage vivant que des témoins, c'est utile. Parce qu'on vous a aussi témoigné. Moi, j'ai reçu l'évangile parce que, ben, un pasteur, je me suis assis devant un pasteur, et puis c'était Olivier Bourrel, et puis il m'a expliqué l'évangile. Eh bien, il m'a fallu 4-5 jours que ça travaille, hein, et j'ai gardé cette parole, et j'ai cru. Et vous aussi, vous avez reçu la parole d'autres témoins. Et donc, ça marche, ça marche. Chacun est une preuve que le témoignage, c'est quelque chose d'efficace. C'est efficace. Dieu sauve de cette manière. Alors, il ne faut pas cesser de témoigner. Pas cesser de partager et de délivrer ce message simple. Peut-être en bégayant, peut-être avec... Mais peu importe. Dieu se sert de la faiblesse. Versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et dans ce verset 12, on voit que c'est Jésus-Christ qui donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui reçoivent, à ceux qui croient en son nom. Lorsque Christ nous éclaire, Dieu nous demande simplement de l'accepter et de croire. Croire qu'il est mort pour nous. Et croire qu'il peut nous sauver maintenant si on lui demande pardon. Et quand on le fait, quand on fait cette démarche, eh bien, Dieu nous accorde par Jésus-Christ de devenir enfant de Dieu. C'est là où on devient un vrai enfant de Dieu. Il y a beaucoup qui voudraient croire, aujourd'hui, il y en a plein, tout autour de nous, que oh, peu importe, on est tous des enfants de Dieu. Ben non, on n'est pas tous des enfants de Dieu. Il faut qu'on le devienne. À un moment, il faut qu'on le devienne. Et Jésus seul a le pouvoir de vous faire devenir un enfant de Dieu. Jésus seul. Comment? Eh bien, en nous faisant naître de nouveau. C'est ce qu'il dit ici. Hein. Il dit, a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. C'est une naissance, une nouvelle naissance. Il dit, lesquels sont nés, non du sang. Ça signifie que ça ne vient pas de l'hérédité. Ce n'est pas parce que dans ma famille, ils sont chrétiens, mes parents sont chrétiens, ou que obligatoirement ça passe par le sang et on est enfant de Dieu. Non. Il faut qu'il y ait une démarche personnelle. Chacun doit faire une démarche personnelle. Ni de la volonté de la chair. Ça signifie qu'on ne peut pas se faire naître de nouveau. Hein? Ce n'est pas parce que moi je décide, je vais naître de nouveau, ça ne marchera pas. je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas non plus tracer mon propre chemin en disant mais je sais comment je vais devenir un enfant de Dieu en faisant ceci, cela et en respectant ceci. Non, non, ce n'est pas possible. C'est l'action de Dieu seul. Il dit « ni de la volonté de l'homme ». Ça signifie que quelqu'un d'autre ne peut pas faire en sorte que je devienne un enfant de Dieu. Hein. Même j'aimerais qu'une personne soit sauvée, mais je ne peux pas. C'est Dieu qui doit le faire. Je peux prier pour elle. Je peux lui présenter l'Évangile. Mais c'est Dieu qui le fera. Jean dit « lesquels sont nés de rien de tout cela, mais uniquement de Dieu ». C'est Jésus-Christ. Il est le seul qui a le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce qu'il peut libérer du péché, donner le pardon et offrir une vie nouvelle dans sa personne. Et tout ce qu'il est demandé, c'est de recevoir Jésus, de croire en son nom, croire que son nom seul est suffisant pour nous sauver, nous pardonner et nous donner vie nouvelle. Alors est-ce que tous ici ce matin vous croyez? Est-ce que tous vous l'avez reçu? Et vous avez cette vie éternelle, vous savez, vous avez le Fils et vous avez la vie. Est-ce que tous vous l'avez fait? Simplement, faites-le, croyez, recevez-le par une prière. Et puis pour terminer, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Dieu le Fils a habité parmi nous. Et quand on le regarde, quand on regarde sa vie, ses paroles, ses gestes, ses attitudes, on découvre qu'il était plein de grâce, plein de vérité. Plein de grâce d'abord, parce que Jésus, il s'est montré aimant, compatissant, généreux, bon. Vous savez, le mot charisme, parfois est traduit aussi par bonté. La grâce, la bonté. Et Jésus a manifesté une grande bonté. Ça nous saute aux yeux quand vous lisez le récit de la femme adultère. C'est incroyable. Bien que la loi de Dieu condamne une telle femme. Et Jésus va réussir à confondre ses accusateurs pour libérer cette femme d'une lapidation qui était certaine. Il la libère. Ah, waouh, quelle grâce. C'est une scène incroyable. Il faut imaginer ce que devaient être les pensées de cette femme, dans quel état elle devait être. La Bible ne décrit pas, hein, mais voilà, ils étaient tous... La pierre levée, en un instant, eh bien, elle était lapidée. Et aucune de ces pierres ne la frappa. Jésus a témoigné plein de bonté, plein de grâce. Et il était aussi plein de vérité. La vérité était sur ses lèvres. C'est pour cela qu'il répétait sans cesse, « en vérité, je vous le dis. » Il appuyait, « en vérité, en vérité. » En anglais, je regardais, il traduisait, « je vous le dis, en vérité. » « Je vous le dis, en vérité. » Croyez, c'est la vérité. Et ceux qui voulaient bien prêter l'oreille, eh bien, ils pouvaient entendre la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur l'homme, et donc la vérité sur soi-même en fait, la vérité sur le salut, la vérité sur l'éternité, en vérité, je vous le dis. Tout était vrai sans ombre en lui. Et Jean ajoute, et nous avons contemplé sa gloire. Lui, il a vu hein, de ses yeux, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qu'est-ce que c'est la gloire? C'est ce qui fait que Dieu est grand, et élevé, et majestueux, et digne de louange, et adorable. Voilà, ça invite à l'adoration. Et Jean et tous les disciples, eh bien, ont vu les miracles de Jésus. Ils ont vu la puissance de Jésus se manifester. Ils ont vu cette bonté. Et ils sont arrivés à cette conclusion. C'est une gloire comme, semblable, identique à celle du Fils unique de Dieu. Autrement dit, Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu, le Fils de Dieu. Ils en témoignaient, ils en étaient les témoins. Oui, il est vraiment le Fils de Dieu. Oui, il est vraiment venu mourir pour nos péchés. Vous savez, quand vous prenez le livre des Actes, juste avant que Jésus ne monte au ciel, Il a donné quelques recommandations à ses disciples. Et puis, il a dit, voilà, vous êtes mes témoins maintenant. Vous êtes mes témoins. Allez, répandez-vous. Témoignez de moi. Ça a invité à l'action. Il fallait agir maintenant. Ça y est. Et vous n'avez plus rien à attendre. Maintenant, il faut y aller. Et quand on lit ce texte, quand on écoute la parole de Dieu, eh bien, ça invite à l'action. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Est-ce que peut-être je vais changer quelque chose? Est-ce que je vais dire, bon, c'est vrai que je considère plus trop de témoigner de mon Sauveur et mon Seigneur. Je suis en retrait. Mais je vais commencer à réfléchir, mais qui autour de moi a besoin d'entendre? Seigneur, mets-les-moi sur le cœur, que je puisse commencer à prier pour elle. Seigneur, pour cette personne, pour la voisine, pour la boulangère, pour je ne sais pas qui, pour mon collègue, Seigneur, je te prie que tu prépares une occasion, que tu mettes les paroles sur mon cœur, que tu me donnes la liberté pour témoigner de toi. Priez pour ceux qui sont autour de vous. Demandez à Dieu qui vous donne les paroles. Vous êtes les témoins. Nous sommes les témoins. Et sans nous, ben, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. On va avoir un moment de prière.
C'est la même chose pour prier dans le culte.